inédit de la Grande Guerre.
40 épisodes collectés par les archives départementales de la Côte d'Or
et lus par leur directeur, Édouard Bouillet.
Épisode 33.
Rêve, cauchemar et folie.
Pour le poilu qui dort dans la tranchée, le sommeil est-il réparateur? Parfois oui, parfois non. Tout dépend si le bruit des obus, les cris et les gémissements des blessés se sont pour un temps interrompus. Mais même le calme provisoire de la nuit et ses rêves n'apportent pas toujours de dérivatifs. Gabriel Degois, sergent sapeur au 60e régiment d'infanterie, note.
Jeudi 7 octobre 1915. Nous ne sommes pas partis et nous avons passé une bonne nuit réparatrice. Au loin, on entend toujours le canon. Il paraît que le 8e corps est devant nous. Nous avons dormi sous nos toiles de tente. On commence à s'y habituer. Vision de l'attaque. Vue d'un tirailleur couvert d'amulettes. Un zouave tuant d'un coup de poignard un officier d'artillerie, et en même temps tué par ce dernier d'un coup de revolver.
Il n'est pas rare que tout cela rende fou. Dès le tout début de la guerre, le 1er septembre 1914, le même Gabriel Degois écrit
« J'ai vu un mitrailleur du 42e qui est devenu complètement fou. Il a les yeux hagards, remue la tête de droite à gauche, il a toujours le bras droit avancé et fait le mouvement de tirer sur la gâchette de sa pièce. » Il répète sans cesse « Roger, passe-moi une bande ! Mon lieutenant, la pièce est foutue ! Roger, passe-moi une bande ! Mon lieutenant, la pièce est foutue !»
Sans sombrer dans la folie, bien des poilus ont des hallucinations. André Bitaud décrit les nuits dans la tranchée, dans le secteur avant de Baccara, à la fin de l'automne 1915.
Est-ce l'inquiétude ou la peur d'être surpris ? On se sent dans une complète insécurité. Des choses irréelles se meuvent et semblent danser dans la demi-obscurité. L'esprit s'agite, les nerfs se tendent, car malgré ce calme relatif, ce noir est rempli de menaces. Des fantômes errent dans la nuit. Attention, regarde bien là, à 50 mètres, une forme semble se mouvoir. Et oui, l'hallucination devient collective. POM ! Instinctivement, on a appuyé sur la gâchette. La balle a tué le fantôme et, comme par enchantement, cette fantasmagorie s'est évanouie. Ce petit coup sec a remis les idées en place. Et, tandis que nous sommes là, transis de froid et même d'inquiétude, les pieds dans la boue glacée, sous le vent de bise qui souffle âprement, dominé par une inquiétude qui frise la peur, l'esprit ouvert à toutes les hallucinations, 200 mètres en arrière, dans un abri solide et confortable, chauffé et aménagé spécialement, le lieutenant de la section, et plus loin encore, le capitaine, dorment béatement ou feuillettent la Vie parisienne ou autres journaux galants.
En proie à des hallucinations, les poilus ont parfois des pensées bizarres devant des spectacles qui nous feraient à nous dresser les cheveux sur la tête. Ils en ont tellement vu. Ils sont blindés. André Bitaud est dans la Somme en 1918. Certains objets, certaines rencontres lui inspirent des réflexions étranges, voire surréalistes.
En haut d'une côte, endroit qui semblait avoir été un carrefour, ravagé, noirci, bouleversé, la terre là aussi semblait morte. Sur le milieu qui semblait avoir été la chaussée, gisait à découvert, négligemment, comme un bout de bois qu'on aurait perdu là, une main humaine, en bon état, tenant encore à une moitié d'avant-bras. Blasée par la vue, par l'odeur des cadavres, dans toutes les positions et dans un état de putréfaction avancée, cette mini-chose, direz-vous, ne pouvait guère nous influencer. Eh bien si, cette main, aux doigts effilés, blanche comme une main de femme, une partie de cet être était là, morte, tandis que l'autre partie était peut-être encore vivante. Ce dilemme rendait ce cas encore plus mystérieux que la vue d'un cadavre complet. Qu'était devenu le propriétaire de cette chose macabre? Était-il mort ou vivant, blessé, en laissant une partie de sa personne en ces lieux? Pour un peu, on se serait baissé pour ramasser cette main et la porter aux objets trouvés.